Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Voilà comment Jésus a institué le baptême, et comment, par cette formule, Timon va être baptisé. Le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. C'est ce que l'on appelle la Trinité, qui, d'après le calendrier de l'Église catholique romaine, se fêtera dimanche prochain, qui se trouve, notons-le en passage, également le jour de la fête des Pères, ce qui n'a strictement rien à voir. Mais aujourd'hui, nous sommes le dimanche de Pentecôte. C'est à l'origine une fête juive. Tout comme la fête de Pâques et celle des Tentes, elle est une des trois grandes fêtes de pèlerinage d'Israël. C'était au départ une fête agricole, la fête des moissons. Mais la Bible aussi en parle comme la fête des semaines, cette semaine après la Pâque. On l'appelle aussi fête des prémices. Puis, elle devient une fête religieuse sous le nom de Shavuot. Elle rappelle l'événement du don de la Torah au Sinaï. Le mot Pentecôte signifie quant à lui 50, Pentecôte est donc le 50e jour après la Pâque. On peut également relever que dans la communauté des Esséniens à Qumran, ce jour-là, on accueillait les nouveaux membres, comme on va le faire aujourd'hui pour David et Timon. Cet épisode que nous relate le livre des Actes est donc ancré dans le judaïsme du premier siècle. Et c'est en effet, c'est pour commémorer cette fête juive que les disciples sont réunis ce jour-là. Et voici qu'un événement spectaculaire se produit. Un violent coup de vent, avec du bruit, venu du ciel, envahit la maison où ils étaient assis. Aussi, comme nous ce matin, les disciples étaient réunis à l'intérieur d'une maison pour commémorer ce jour de Pentecôte. Dans ce texte, Luc nous fait découvrir la genèse de l'Église. Plusieurs signes jalonnent ainsi son récit. Il opère des allers-retours fréquents avec l'ancienne alliance. On peut ainsi relever, dans l'évocation de ce bruit accompagné d'un vent violent, un parallèle avec le livre de l'Exode, où Dieu se manifeste dans des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée. Ce parallèle est à relier avec les premiers mots de ce chapitre 2 du livre des Actes. Luc écrit textuellement comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait. Ce mot reprend celui-là même que Jésus emploie lorsqu'il dit « Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir ». Ce qui se passe donc en ce jour de Pentecôte est l'accomplissement de la promesse et du projet de Dieu. Et voici ensuite ce qui arriva. Apparurent alors des langues comme de feu qui se séparaient et qui se posaient sur chacun des présents. Remarquons au passage que Luc ne décrit pas précisément ni le vent ni les langues. Le langage humain ne peut décrire les manifestations de Dieu, tout comme on ne peut décrire Dieu. Cela nous échappe. Notre vocabulaire est pauvre devant la grandeur de Dieu. Lorsque Luc évoque l'Esprit-Saint, le mot grec employé est « pneumatos », qui a donné en français « pneumatique ». On peut donc dire que l'Esprit-Saint, c'est le souffle de Dieu. Jésus a dit que l'Esprit souffle où il veut. Il fait ce qu'il veut. Remarquons que ce souffle de Dieu est bizarre, puisqu'il défait en ce jour de Pentecôte ce qu'il a fait à Babel. En effet, pour cette importante fête à Jérusalem, sont présents de nombreux juifs fervents de toutes les nations qui sont sous le ciel, nous dit le texte. Et la liste en est longue, je ne la répondrai pas. En fait, elle renvoie une fois encore aux paroles du Christ dans le premier chapitre des Actes, où il établit les apôtres témoins de l'Évangile à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et cette énumération des livres des Actes représente aussi l'inversion de la dispersion de Babel. Voici encore un exemple du va-et-vient que Luc opère entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Mais au-delà de ces allers-retours, il y a la volonté de démontrer, d'une part, que l'ancienne alliance préfigure en quelque sorte la nouvelle, et que d'autre part, la nouvelle s'enracine dans l'ancienne, ou plutôt, disons, dans la première, au sens d'antérieure et non de prééminente. Les langues, comme de feu, nous dit Luc, se posent sur chacun de ceux qui étaient réunis en ce même lieu, et ils furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues que la leur sur l'impulsion de l'Esprit. Et souvent, pour nous, lorsque l'on évoque le parler en langue, surgit alors l'image de certains pentecôtistes. Et nous nous disons, ce n'est pas mon truc, parce que nous, en général, nous ne sommes guère des familiers de l'Esprit Saint. Nous n'avons pas l'habitude, à l'instar de nos frères luthériens, de faire le signe de croix en disant, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. D'ailleurs, si nous avons tous notre propre représentation de Dieu, si nous avons une idée assez précise de Jésus, nous restons plutôt perplexes avec le Saint-Esprit. Il a beau être mentionné dès le début de la Genèse, Jésus a beau nous dire qu'il va envoyer un autre défenseur, dans le sens d'avocat, le paraclète, l'esprit de la vérité, nous n'avons souvent qu'une idée très vague de ce qu'il peut être. Cet esprit de Dieu est un esprit de sagesse et d'intelligence, un esprit de conseil et de force, un esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, nous dit le prophète Ésaïe, un esprit de vérité, nous dit Jésus. Cet Esprit Saint que Dieu enverra au nom de Jésus-Christ nous enseignera tout ce que la parole dit et tout ce que Jésus a dit. Nous aurions donc grand intérêt à nous ouvrir aux dons qu'il prodigue. Je lirai ici ce passage du prophète Joël qui est cité dans ce même chapitre 2, un peu plus loin, des Actes des Apôtres. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Et voici ce qu'écrit à ce sujet notre cher Calvin. Il y est dit par le prophète que jeunes et vieux, hommes et femmes, recevront tous un même esprit. Et c'est afin qu'on allègue point. Ah, je ne suis point clair, je ne peux donc comprendre ce qui est dans l'Écriture pour recevoir le Saint-Esprit. Les théologiens s'accordent à dire que ce jour-là, grâce à l'Esprit Saint descendu sur les apôtres, l'Église est née. En effet, immédiatement après cet événement, nous avons la première prédication de son histoire, prononcée par Pierre, qui la termine en demandant à chacun de recevoir le baptême au nom de Jésus-Christ, et en même temps que le baptême du don du Saint-Esprit. Et l'on dit que 3000 âmes rejoignirent les apôtres. C'est donc grâce au Saint-Esprit que l'Église a débuté, et grâce à ce même Esprit qu'elle perdure encore aujourd'hui, et que nous pouvons, nous aussi, en ce jour de Pentecôte, ajouter Timon et David à la longue liste des âmes gagnées au Christ. Eux aussi sont appelés à faire partie de cette grande aventure de l'Église. Oui, Chaque jour, il faut avancer pour la diffusion de l'Évangile. Les obstacles sont nombreux, le travail est permanent, et peu nombreux sont les ouvriers pour la moisson. Mais en faisant appel à l'Esprit Saint, rien n'est impossible. Et avant de terminer, je laisse la parole à Daniel Marguera, professeur à la faculté de théologie protestante de Lausanne. Comme le ministère de Jésus, la vie de l'Église naît d'un don qui la fonde. Elle trouve son origine en dehors d'elle, dans une grâce qui la dépasse infiniment. Elle naît porteuse d'une parole dont l'envergure universelle lui est donnée avant d'être le résultat d'un labeur missionnaire. L'agir de l'Esprit se manifestera dans la communauté croyante par des gestes concrets de communion et de solidarité. Mais il expose aussi les croyants, comme le fut leur Seigneur, à la contestation et à l'incompréhension. Pentecôte appelle à discerner l'unité d'une même parole dans l'irréductible pluralité des langues. L'événement ne fonde pas une communication fusionnelle, mais avance une promesse. L'Esprit peut transcender toute culture, ou plutôt habiter toute culture, pour faire entendre les merveilles de Dieu. Pour le dire autrement, l'Esprit de Pentecôte fonde l'Église comme une communauté diverse où la communication universelle est un don. Fin de citation. Pentecôte est donc une expérience personnelle et communautaire. Personnelle parce que chacun de ceux qui étaient réunis dans la maison a été rempli du Saint-Esprit. Et grâce à lui, en réponse aux paroles du Christ juste avant son ascension, qui leur a dit « Vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Oui, grâce à cette puissance donnée par l'Esprit, l'Église a vu le jour et s'est développée. En effet, comme le dit Paul, « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Aujourd'hui encore, l'Esprit Saint anime chacun de nous, souvent sans qu'il en soit conscient. Et malgré tout, cet esprit veille sur l'Église. Et le mot grec « parakletos », le paraclète que Jésus emploie, peut se traduire aussi par « celui qui est appelé à côté ». Et que les hellénistes distingués me pardonnent de tordre quelque peu le sens, j'aimerais traduire « celui qui marche à côté de l'Église et de nous-mêmes, comme un compagnon de route dans les bons et les mauvais moments ». Oui, nous avons besoin du Saint-Esprit, individuellement et collectivement. Même si nous n'apercevons pas de langue de feu sur notre tête, même si nous ne parlons pas d'autre langue que la nôtre, et je m'excuse devant les Allemands qui sont là ce matin, soyons sûrs que l'Esprit Saint nous envahit comme il a envahi les apôtres dans les premiers jours sans Jésus. N'ayons pas de réticence avec la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Aller-retour entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, aller-retour entre individualité et communauté, aller-retour entre foi personnelle et Église, aller-retour entre mystique et pratique, le Saint-Esprit descendu au jour de cette Pentecôte est le lien indissociable et indispensable de ces allers-retours. Permanent, intemporel, présent dès le commencement comme aujourd'hui, l'Esprit est à la fois moteur et ciment. Il agit et réunit. Il nous est aussi indispensable que l'air que nous respirons, notre souffle, ne puise-t-il pas sa source dans le souffle de Dieu? Le souffle de Dieu ne nous donne-t-il pas la vie? Oui, le souffle de Dieu, son esprit, nous donne la vie. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. Amen.